Soft Power, Frédéric Martel.
This is why I'm hot, hot. This is why I'm hot, hot.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique, désormais tous les dimanches de 18h10 à 19h30 en direct. Au sommaire de ce magazine ce soir et en avant-première du Forum de Paris sur la paix qui aura lieu du 11 au 13 novembre, je reçois Justin Weiss qui était déjà présent dans le journal tout à l'heure, qui dirige le Forum de Paris sur la paix après avoir dirigé le Centre d'analyse de prévision et de stratégie du ministère des Affaires étrangères. En un mot, bonsoir Justin Weiss, le Forum de Paris sur la paix, ce sera quoi ?
C'est une sorte de formidable expérimentation en politique internationale qui consiste à rassembler tous les ans à Paris tous les acteurs de ce qu'on appelle la gouvernance mondiale, les chefs d'État et de gouvernement, les organisations internationales, les ONG, les entreprises, les fondations, les syndicats, les groupes religieux, bref, tous ceux qui concourent à définir les règles et les moyens, disons, de la politique internationale, tout ce qui touche les citoyens, mais qui n'est pas purement national, c'est-à-dire tout ce qui dépasse les frontières. La plupart de ces problèmes-là, du climat à la question de la cybersécurité, en passant par la question de la gestion des océans, la gestion, du trafic spatial, par exemple, tous ces problèmes-là sont importants et ne sont pas susceptibles d'être réglés sur le plan national. C'est pour ça qu'il faut tous les acteurs, on les réunit du 11 au 13 novembre à la Grande Halle, autour de projets concrets.
Voilà, ça c'est du, on peut dire que c'est du soft power justement, et c'est du soft power à un moment où les règles internationales manquent, où on a du mal en tout cas à les discuter, à les faire appliquer. Philippe Delmas est un penseur / chef d'entreprise / auteur, donc un peu atypique, et votre invité Zoé Sfez.
Parce qu'il signe un pouvoir implacable et doux, la tech ou l'efficacité pour seule valeur, un essai qui paraît aux éditions Fayard, qui s'interroge sur la différence entre la révolution industrielle qu'on a connue au 19e siècle et la révolution qui a perduré jusqu'aux années 70 et la révolution de la tech, la révolution technologique sur finalement la valeur et l'utilité de cette révolution et effectivement et surtout ce que ne dit pas ni le titre ni le sous-titre, les rapports politiques totalement modifiés que cette révolution engendre selon vous. Philippe Delmas, je rappelle que vous êtes énarque et que vous avez dirigé Airbus notamment.
On parlera également ce soir d'un print inédit qui précède une autobiographie tenue secrète, mais on a réussi à percer ce secret. On parlera de la méthode originale de la Française Esther Duflo et toute sa bande qui leur valent d'avoir obtenu le prix Nobel d'économie cette semaine. Et puis on est allé à la FIAC ce week-end, la FIAC qui suscite des débats et sur lesquels nous reviendrons. Voilà pour le sommaire de ce magazine ce soir. Émission réalisée par Lionel Quentin avec un régie Alice Seyed. Cette émission a été préparée par Nathan Marcel Meillet avec pour les réseaux sociaux Abdelila Laloui, car vous pouvez suivre Soft Power sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify ainsi que sur Instagram, sur Facebook, LinkedIn et bien sûr en podcast chaque semaine en vous abonnant gratuitement au podcast sur le site de France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 19h30 sur France Culture, vous avez le programme, c'est parti. France Culture, 18h15, l'actualité des industries culturelles et du numérique, mais aussi de l'influence française, du soft power, première séquence, premier segment de cette émission ce soir. À 46 ans, la Française Esther Duflo a donc reçu cette semaine avec son mari Abhijit Banerjee au MIT comme elle et Michael Kremer de Harvard le prix d'économie de la Banque de Suède, autrement dit celui qu'on considère et qu'on appelle le Nobel d'économie. D'ailleurs, Esther Duflo est la plus jeune lauréate ainsi primée de toute l'histoire de ce prix Nobel. Constituée d'économistes réputés, cette équipe américaine est d'abord récompensée pour sa méthode, sa méthodologie, une méthode développée dans leur laboratoire appelé le GPAL au MIT. Loin d'une économie théorique, mathématique ou statistique qui était ultra majoritaire jusqu'à récemment dans les politiques de développement, leur méthode est basée sur une expérimentation. Fini d'une certaine manière les modèles et les modélisations mathématiques complexes, place au terrain. Quels sont les moyens les plus effectifs pour lutter contre la pauvreté? Comment les mesurer. Les politiques de développement telles que le microcrédit en Inde, le tutoring dans les écoles en Afrique, la lutte contre la corruption en Amérique latine, est-ce que ça marche? Duflo, Banerjee et Kremer ont proposé une méthode par échantillonnage aléatoire dite RCT. RCT qui rappelle celle de la médecine ou des essais cliniques pharmaceutiques avec notamment des placebos. Alors comment ça se passe? Certains villages se voient proposer un programme, d'autres non. Au bout de quelques années, les chercheurs observent les résultats. C'est ce RCT qui leur a valu le prix Nobel. Esther Duflo a expliqué chez nos confrères de France 2 cette méthode. Elle était l'invitée du journal de 13h d'Élise Lucet au moment de sa leçon inaugurale au Collège de France. C'était le 13 janvier 2009, une archive INA.
Ma démarche est avant tout une démarche d'évaluation, c'est-à-dire c'est d'essayer de travailler avec les acteurs de terrain, qui peuvent être des ONG, qui peuvent être des gouvernements, qui peuvent être des firmes privées, qui essayent de faire des choses concrètement sur le terrain dans les pays en développement. Et d'essayer de travailler avec eux pour évaluer l'efficacité de leurs idées et de leurs programmes. Voilà, on va sur le terrain, on accompagne l'équipe qui met en place le projet sur le terrain. Par exemple, si vous voulez savoir qu'est-ce qui est plus efficace pour que les enfants apprennent mieux à l'école, est-ce que c'est plus efficace de vous concentrer sur le soutien scolaire, ou est-ce que, comme c'est très à la mode dans beaucoup de pays en développement, est-ce qu'il faudrait mettre des ordinateurs dans les écoles? Alors, pour savoir ce qu'il faut faire, ou savoir ce qu'on peut faire, ce qui coûte le plus cher, ce qui aide le mieux les enfants, on peut comparer, mettre du soutien scolaire dans certaines écoles, des ordinateurs dans d'autres écoles, voir les résultats des enfants à la fin, et voir si ça fait une différence, et quel projet est le plus efficace d'une part, et le plus efficace par rapport à ses coûts d'autre part.
Alors ça, vous l'avez fait concrètement en Inde, cette étude-là très particulière, cette évaluation-là, et... Les ordinateurs, voilà. C'est pas forcément la panacée.
Alors, nous avons eu l'opportunité de le faire en Inde parce que justement, les ordinateurs sont très à la mode en Inde. Et dans une ville de l'Inde, la mairie avait décidé de distribuer des ordinateurs dans toutes les écoles. Mais ces ordinateurs restaient dans leur boîte sans être utilisés. Donc, ce que nous avons fait, c'est en travaillant avec une ONG, d'enlever les ordinateurs des boîtes dans la moitié des écoles et dans d'autres écoles, d'envoyer simplement une jeune femme pour faire du soutien scolaire. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vrai que les ordinateurs aident les enfants. En particulier, on avait mis dans les ordinateurs des logiciels de maths. Ouais. C'est vrai que ça aide les enfants, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Donc finalement, par rapport à une jeune femme qui se concentre sur aider les enfants en difficulté, un ordinateur, ça marche pas tellement mieux et c'est presque 10 fois plus cher. Donc finalement, se concentrer sur les enfants en difficulté, c'est une stratégie plus efficace aujourd'hui.
Voilà, Esther Duflo au micro de France 2, le journal d'Élise Lucet. L'aide au développement a été transformée en profondeur grâce à ces méthodes expérimentales très nouvelles et validées sur le terrain. Et c'est d'abord donc pour cette méthode d'évaluation objective que l'équipe a reçu ce prix Nobel. Il faut ajouter à cela une grande empathie pour les populations locales, au contact desquelles les chercheurs, qui se font du coup un peu ethnologues ou même anthropologues, à l'occasion évolue. Les livres d'Esther Duflo sont publiés au Seuil dans la collection La République des idées. Je recommande en particulier les deux tomes de La politique de l'autonomie, publié au Seuil, ou encore Repenser la pauvreté, également publié au Seuil. Justin Weiss, vous êtes directeur général du Forum de Paris sur la paix, diplomate. Vous avez longtemps vécu aux États-Unis, comme Esther Duflo, qui a d'ailleurs pris, je crois, la nationalité américaine depuis 2012. Peut-être une réaction à ce prix Nobel, Justin Weiss?
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait partie de cette pléiade de stars françaises qui sont aux États-Unis et qui ont eu un impact assez important sur soit la politique américaine, soit la politique globale, Olivier Blanchard au FMI
MIT
notamment,
avant,
soit la politique de développement, mais aussi directement, on le voit en ce moment aux primaires, l'impact de Saez et Zucman sur les candidats à la primaire démocrate, sur Bernie Sanders, sur Elizabeth Warren, de façon plus indirecte, et donc il y a toute une pléiade comme ça de d'économistes français de renom dont on peut s'enorgueillir. Alors, évidemment, on peut
parler aussi de la fuite des cerveaux.
Voilà, l'envers de la chose, c'est la fuite des cerveaux. En même temps, je pense qu'il y a une circulation qui est très grande. Je pense qu'on a aussi des réussites françaises et européennes autour de l'économie de Paris, de l'école d'économie de Paris, autour de, je sais pas, de Bruegel, autour de Jean Pisani-Ferry et d'autres, et dont on voit
Thomas Piketty,
exactement, qu'il circule en fait. Hein, circule
en même temps, Esther Duflo, c'est lycée Henri IV, elle a reçu 4e à Normale Sup, elle fait un DEA à l'EHESS, agrégation d'économie, mais pouf, elle devient, elle fait son doctorat au MIT, sous la direction d'ailleurs d'Abhijit Banerjee, qui va devenir par la suite son mari, avec lequel elle partage le Nobel, donc c'est brain drain, comme on dit en anglais, l'affût des cerveaux.
Il en reste pas moins qu'il y a, oui, des conditions aux États-Unis, et notamment autour de Boston, au MIT, à Harvard et ailleurs, des conditions qui sont offertes aux chercheurs, qui sont difficiles à égaler et qui font qu'ils y sont, qu'ils y restent. On a, je sais pas, une jeune Française, par exemple, Stéphanie Stancheva, est maintenant professeure d'économie à Harvard à 32 ou 33 ans. Donc ça continue. Évidemment, ce qu'il faut, c'est pouvoir les réattirer au Collège de France, à l'École d'économie de Paris.
Etc. Ce qui est le cas pour Esther Duflo, puisqu'elle a une chaire partielle certaines années. Je ne sais pas le statut exact qu'elle a, mais elle est au Collège de France, Zoé Sez.
Pour poser la question autrement, est-ce que si elle était restée en France, Esther Duflo aurait pu être prix Nobel d'économie, vous pensez ?
C'est difficile à dire. Je pense que dans les conditions de sa jeunesse, avant qu'il y ait, alors oui, à Toulouse, maintenant à Paris, il y a une certaine infrastructure. En même temps, son choix de rester à Boston a été aussi un choix personnel. Et donc,
oui, elle s'est mariée. Voilà. Puis il y a aussi une question de budget de recherche.
Il y a une question de budget. Ouais. Est-ce que c'est ça la question ? Est-ce que son projet et sa recherche sur les développements auraient été aussi efficaces ? Et donc, est-ce qu'elle aurait pu ? C'est plus une question rhétorique. Je ne vous occupe pas.
En même temps. Jean Tirole a eu le prix Nobel d'économie.
Mais tout à fait, c'est vrai.
Donc, comme quoi.
Je suis pas sûr que ce soit une question rhétorique.
Philippe Delmas.
Ce que disait Jean Vess à l'instant est important. Quand elle est partie, il n'y avait pas d'institution en France qui pouvait offrir quoi que ce soit d'équivalent, ouais. Ne fût-ce que comme cadre intellectuel et même matériel. La création, moi j'ai un assez vif souvenir de ça, j'étais à Toulouse à l'époque, de l'école d'économie de Toulouse, plus de celle de Paris. Ont été accueillis avec un peu d'ironie, notamment par les universitaires. N'empêche qu'on est arrivé à créer des institutions dont la logique de fonctionnement, de sélection, de financement est anglo-saxonne et ça marche assez bien.
Et sur ça, Justin Weiss, vous pensez qu'on peut aller de l'avant dans cette direction-là, ou est-ce que c'est finalement la vie normale d'un chercheur international que d'être,
alors,
de
oui,
voyager
oui,
de...
D'abord, je pense que ce voyage-là est indispensable. La question, c'est de savoir si en effet tout se fait de l'autre côté de l'Atlantique, ou si on arrive notamment dans un cadre européen. Et je pense aussi que c'est ça une des voies d'avenir qu'il faudra essayer de pousser, que ce soit autour de think tanks comme Bruegel ou d'autres, travailler entre Européens sur l'économie et avoir des moyens de recherche qui soient équivalents ou comparables en tout cas à ceux qu'on offre aux États-Unis.
La FIAC se tenait au Grand Palais à Paris jusqu'à ce soir, la Foire internationale d'art contemporain, dont l'édition 2019, la 46e du nom, a été marquée par des inquiétudes sur son futur pendant notamment les longs travaux prévus au Grand Palais dans les années à venir. Alors la directrice de la FIAC, Jennifer Flay, s'est voulue rassurante ce matin lors d'un point presse où nous étions. La FIAC aura bien lieu au Grand Palais en 2020, en dur, hein, pas sous une tente. Nous voilà pour une part rassurés. Ce qui frappe lorsqu'on visite la FIAC, notamment cette semaine, c'est l'incroyable diversité des galeries. 199 étaient présentes cette année. Diversité géographique, diversité de l'art proposé, diversité surtout des artistes par leur âge, leur sexe, leur rapport à l'art. Tous ceux qui répètent à longueur de colonne et d'ailleurs de micro également que l'art contemporain est nul, je les cite, devraient juste venir visiter la FIAC ou ses espaces hors les murs et même off ou dissident. Dire que l'art contemporain est nul, c'est en fait être un peu borné, fermé, de pas expérimenter, refuser de prendre des risques et juste s'interdire d'aller voir et de voyager. Bien sûr, nombre d'œuvres présentées à la FIAC nous ennuient et parfois elles nous révoltent, mais d'autres splendides ou complexes, machines désirantes ou tout simplement belles œuvres et installations récentes nous émeuvent. Et je pense notamment aux installations d'un artiste allemand d'origine polonaise, Alicia Kwade, au tableau de Katharina Gross, au Land Art de l'américain Michael Heiser ou encore à Grayson Perry, coqueluche transgenre venue tout droit de Londres. Là, je cite Le Figaro. Si même Le Figaro nous le dit, c'est que l'art contemporain va mieux. Alors, on peut débattre de la présence française qui aurait diminué à mesure que l'internationalisation de la FIAC s'est opérée et du fait d'ailleurs du prix exorbitant des stands. Pourtant, les galeries françaises représentent 28% des galeries sélectionnées, soit presque un tiers du nombre total. Et pour avoir une confirmation de la vitalité de l'art contemporain, y compris français, rien de tel qu'une visite pas loin d'ailleurs de la FIAC au Palais de Tokyo, où on peut retrouver en ce moment de jeunes artistes passionnants comme Lily Reino Dewar, Mali Haroun, Jean-Luc Blanc, Maurice Blossild ou encore Adrien Vescovi, parmi beaucoup d'autres. Évidemment, une critique de l'art contemporain est toujours possible, ainsi qu'une critique de la FIAC elle-même, Zoé Sfez, tant à l'égard de ce type de manifestation en général que de la barrière qu'elle érige entre, disons, le in et le off, hein, c'est-à-dire les artistes plus jeunes et moins connus, qui, eux, ne peuvent pas toujours et pas facilement être exposés à la FIAC.
Oui, parce qu'effectivement, entre un marché qui de l'art qui ne cesse d'osciller entre crise et remontée spectaculaire à peu près depuis 2008, les critiques plus du marché que de l'art contemporain, et notamment du système des grosses foires, ont été assez acerbes, particulièrement en France. Donc sur la place accordée aux galeries françaises, vous l'avez dit, c'est 28% des galeristes de la FIAC qui sont français. Mais ils étaient 31 l'année dernière, ils étaient encore plus l'édition d'avant, et ça reste un problème. Et par ailleurs, on recevait l'année dernière, la semaine dernière, on l'a entendu, la graveuse critique d'art Aude de Kéros. Alors elle, c'est une farouche, disons, adversaire de l'art contemporain, plus que du marché, mais elle est rejointe depuis peu par des acteurs qui font eux-mêmes partie du champ. Hein. Je rappelle la galeriste Nathalie Obadia, qui était l'invitée d'Emmanuel Laurentin la semaine dernière, qui est présente à la FIAC, mais qui est vigilante sur son propre marché. Et puis il faut dire que cette année, juste avant l'ouverture de la Grande Foire, il y a une enquête du site documentation.art qui dénonçait les pratiques de l'Association pour la diffusion internationale de l'art français, c'est l'ADIAF, qui remet notamment le prix Marcel Duchamp, hein, ce prix Marcel Duchamp qui est remis à l'occasion de la FIAC et qui a été attribué cette année à Éric Baudelaire. Voilà, donc pas mal de soubresauts et de cris d'alarme du côté des professionnels de l'art français. 11 foires off cette année, c'est quasiment un record en parallèle de la FIAC, avec notamment Galeriste, qui était une espèce de foire qui avait décidé de se tenir en novembre pour ne pas justement pâtir de la concurrence de la foire, qui a fini par se rendre à l'évidence et par se recaler sur le timing de la FIAC. Et puis d'autres FIAC qui en finalement de plus en plus attirent de plus en plus de monde, notamment parce que on y voit un art qui échappe encore un peu pour le moment au marché. C'était le cas de l'Outsider Art Fair, c'est sa 7e édition à Paris, qui se tenait à l'atelier Richelieu, donc toujours à peu près dans le même quartier, avec un directeur qui lui-même est un Américain, qui a repris la foire américaine de New York, dédiée donc à ce qu'on appelle l'Outsider Art Fair. Qu'est-ce que c'est? C'est l'art dit brut, l'art outsider, l'art du tatouage. On a retrouvé de très très belles œuvres de Marcel Storr. Marcel Storr, c'est ce peintre complètement inconnu qui avait fait une très belle exposition. On avait une très belle exposition au Carré Baudouin, à Louise Gonsalves, grande peintre de l'art brut américain. On est sur vraisemblablement une augmentation des ventes pour ce type de foire de 25% par rapport à l'année dernière. Ça dit une appétence pour cet art qui est tout à fait différent, qui se tient hors de la conversation artistique qu'on peut avoir dans les grandes foires, me disait donc son directeur, aussi parce que les prix sont bien moins importants. Ça va de 700 euros à 80 000 euros grand maximum dans ce type de foire. Voilà, donc essor de ces foires off qui sont contraintes de toute façon d'exister en même temps que la FIAC, qui à la fois bénéficie de son aura et en souffre. Et on peut quand même peut-être dire un mot en cette dernière journée de la FIAC. On n'a pas encore les chiffres, hein, le bilan en termes de à la fois de chiffres de vente de la FIAC et de fréquentation, qui a probablement été un petit peu empêché par la grève de la RATP. Mais un mot pour dire quand même qu'on regrette aujourd'hui la mort de l'artiste chinois Huang Yongping. Il est mort à 65 ans. Kamel Menour, son galeriste, l'évoquait largement dans sa masterclass avec Arnaud Delaporte qui a eu lieu ce week-end à la FIAC. C'était un des 10, disons, artistes contemporains chinois les plus importants. Il a commencé dans les années 80 à Pékin et puis il est arrivé à Paris où il habitait depuis 89, depuis Tiananmen en fait, pour cette fameuse exposition Les Magiciens de la Terre. Jean-Hubert Martin, c'est une exposition légendaire qui a permis de découvrir l'art contemporain chinois. C'était un homme relativement taiseux. Il a des installations à la fois très impressionnantes, très polysémiques, qui se prêtaient beaucoup à l'interprétation représentations. Il y avait Arche, c'était en 2009 à la Chapelle des Beaux-Arts. Et puis il y a effectivement eu un Monumenta, c'était la 7e édition de Monumenta. C'était au Grand Palais, toujours à la FIAC, qui s'appelait Empire. Et on avait une espèce d'acier, de container en acier avec un squelette en serpent qui était une réplique du bicorne de Napoléon. Donc c'était une espèce de conversation entre les totems de l'art français, de l'histoire française, de l'industrialisation de la Chine. Voilà un artiste qu'on regrettera beaucoup et donc que vous pourrez entendre évoqué par Kamel Ménour dans une masterclass avec Arnaud Laporte à découvrir cet été sur notre antenne.
Et pour terminer sur l'art contemporain, ou d'ailleurs moins contemporain, ou plutôt futuriste, l'Immersive Art Festival. Et alors ça a lieu, Zoé Svez, à l'Atelier des Lumières à Paris.
Oui, c'est un événement qui est très court, qui n'aura duré qu'une semaine. Il a commencé mercredi prochain, il continue jusqu'à mercredi soir prochain. C'est tous les soirs de 19h à 23h dans l'Atelier des Lumières. Alors de quoi s'agit-il? C'est quand même quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que l'Atelier des Lumières? On vous en a parlé ici dans Soft Power. C'est ce lieu d'art rue Saint-Maur, dans une ancienne fonderie, très bel espace, qui a été lancé par Culture Espace. Culture Espace, vous savez, c'est une entreprise privée qui fait de la culture. Et en un an et demi, le site a dépassé à peu près toutes les attentes, d'ailleurs, de ses fondateurs et de ses investisseurs. Il a attiré plus de 2 millions de visiteurs dans des expositions dédiées à Klimt ou à Van Gogh. Klimt et Van Gogh, des œuvres qu'on pouvait découvrir en très, très gros plan, sur tous les murs de cette ancienne fonderie, sur le plafond et sur le sol. Donc, gros succès qui dit l'appétence des Français, notamment des familles, pour ces technologies qui en fait s'affranchissent, qui vous permettent de s'affranchir du cadre de l'écran ou du tableau, puis qui vous permettent de faire une exposition de Van Gogh sans en avoir acheté un seul ou emprunté un seul. On a un énorme succès de tous ces dispositifs dits immersifs. Là, à Lyon, la Sucrière propose une exposition avec un décor imaginé par Rudy Ricciotti autour de Picasso. Il y a eu cette grande exposition au Clos Lucet, Léonard de Vinci 3T. Donc on était toujours un petit peu sur le même système, c'est-à-dire redécouverte d'un patrimoine par ces technologies immersives. Et on pouvait clairement regretter qu'en fait, on ne se serve pas de ces lieux, des technologies délirantes et extrêmement chères hein, d'ailleurs, qui sont utilisées pour découvrir les artistes qui naissent en même temps que cette technologie émerge. Et c'est pour ça que c'est une très belle initiative que cette Immersive Art Festival. Donc c'est 11 collectifs français, irlandais mais aussi turcs qui présentent 11 films de 4 minutes qui sont, en fait, c'est un show qui sont diffusés en boucle toute la soirée sur l'intégralité des murs et des parois de cette immense fonderie. On appelle ça, en fait, du design. Alors, c'est un design sonore, univers immersif. C'est du digital design. Alors, en fait, on parle de sculpture numérique. C'est toujours un peu étrange d'essayer de définir un art par ses contraintes techniques et pas par ce qu'il propose. En fait, on a très peu de lieux en France qui permettent aujourd'hui à des jeunes collectif de s'exprimer de ce point de vue-là versus le reste du monde. Au Japon, il y a le Mori Building Digital Art Museum qui a ouvert il y a un an et demi à Tokyo autour du collectif Team Lab. Team Lab qui avait exposé à la Villette, ça c'était au printemps dernier, ça avait été un succès public absolument énorme, 300 000 personnes grand maximum, beaucoup de lieux qui ouvrent au Mexique, en Corée du Sud, en Turquie, et la preuve, 3 collectifs parmi les 11 qui sont présentés à l'Immersive Art Festival sont turcs. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le profil de ces collectifs. Ça en dit long sur la manière dont cette forme d'art en fait est très très peu structuré puisqu'il s'agit essentiellement de studios qui travaillent pour la publicité, pour des marques. Et je rencontrais Romanil qui est un jeune artiste et designer franco-américain qui était en lice, qui m'expliquait qu'il venait à peine d'acheter un studio et de candidater pour la première fois à des appels d'offres lancés par des musées français. Pourtant, en fait, des gens qui travaillent sur ces questions-là, vous en connaissez. Je note notamment Ryoji Ikeda, que vous connaissez sans doute, auquel le Centre Pompidou a dédié une grande exposition, qui était présent à la Biennale de Venise cette année, ou encore à l'exposition Artistes et Robots, qui était au Grand Palais il y a 2 ans, mais qui sont des expositions qui restent encore très rares. On peut regretter qu'à Paris, il n'y ait pas encore de lieux publics qui véritablement investissent cette forme d'art-là, par exemple la Gaîté Lyrique, mais qui se débat en ce moment dans des problèmes de gouvernance et aussi de budget, parce qu'il faut dire que c'est des technologies extrêmement chères qui nécessite en fait le mécénat de grandes entreprises comme Panasonic ou Sony. Mais en tout cas, Culture Espace, donc cet opérateur privé qui était à l'origine d'Atelier des Lumières, a bien compris en l'occurrence que ça fonctionnait très bien et ils vont ouvrir dans les mois qui viennent. La carrière de lumière, ce sera dans les Baux-de-Provence et un autre espace à Bordeaux au printemps prochain. Voilà, donc les acteurs publics sont demandés à l'appel de cette nouvelle forme d'art que je vous invite vraiment à aller découvrir. C'est très court, c'est jusqu'à mercredi, c'est de 19h à 23h à l'Atelier des Lumières rue Saint-Maur à Paris.
La carrière des Baux de Provence existe déjà, mais elle va peut-être se moderniser.
Non, voilà, la carrière de lumière aux Baux de Provence. Voilà.
Et on va pouvoir avoir de nouvelles expositions qui étaient un peu datées. Alors maintenant, ça va pouvoir se moderniser. À suivre dans Soft Power, le Forum de Paris sur la paix qui aura lieu en novembre. Et dans un instant, Philippe Delmas sur les technologies à la fois implacables et douces. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot sur les mémoires posthumes de Prince qui seront publiés mondialement le 31 octobre. Alors c'est un secret bien gardé que personne n'avait encore éventé en France et on vous le révèle ici, voilà, le titre du livre Beautiful Once, dans la lignée des mémoires de Keith Richards ou des chroniques de Bob Dylan. Cet ouvrage est appelé à faire date. Le New Yorker vient de consacrer en avant-première un long article titré The Book of Prince à cette autobiographie Prince, Beautiful Once, en librairie donc en France le 31 octobre. Et en attendant cette sortie mondiale, voici un inédit de Prince qui a lui été révélé également cette semaine, I Feel For You, en guitare acoustique magnifique datant de 1979. Une démo qui confirme la dextérité de Prince comme guitariste solo et surtout son énergie un peu folle, délirante même, qui se révèle, écoutez, à partir de la troisième minute de ce morceau que nous allons laisser justement jusqu'à sa fin. Prince sur France Culture. Ooh. je crois qu'il aurait pu continuer comme ça un long moment, mais là, il a arrêté, je crois, le magnéto. Vous pouvez retrouver notre séquence Actualité des industries culturelles et du numérique dans son podcast dédié sur le site de France Culture, page Soft Power. (Rire) 18h40 précisément sur France Culture, Zoé Sez.
Bonsoir Philippe Delmas.
Bonsoir.
Rebonsoir en réalité, on vous a déjà entendu. Alors on a le plaisir de vous recevoir parce que vous publiez ce mois-ci aux éditions Fayard ce livre qui a été très remarqué par vos homologues et aussi par des gens dont c'est le métier d'écrire des livres. Un pouvoir implacable et doux, la tech ou l'efficacité pour seule valeur. Alors ce que le sous-titre ne dit pas vraiment de ce livre, c'est que c'est effectivement une analyse des effets économiques de la tech sur notre société, mais aussi sur la manière dont elle transforme profondément notre rapport politique au monde et notamment à la démocratie. Alors, vous êtes ce que les Échos appellent dans un article sur le démantèlement des GAFA, un entrepreneur intellectuel, ça vous va ou pas ça?
Ça me va assez bien.
Ça vous va assez bien puisque vous êtes énarque, vous êtes passé par le Quai d'Orsay brièvement, puis vous dirigez Astrium puis Airbus et aujourd'hui vous dirigez une société de conseil en stratégie industrielle. Alors, le point de départ de ce livre, semble-t-il, c'est une espèce de comparaison entre cette révolution de la tech, même si on va en parler, certains contestent l'existence d'une révolution de la tech en soi, une comparaison avec la révolution industrielle, c'était quoi le projet de ce livre? Quelle était l'intuition qui peut-être vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure-là?
En fait, c'est parti de deux choses. D'une part, les révélations d'Edward Snowden en 2013, qui m'ont quand même amené à m'interroger sur la manière dont, sans nous en apercevoir au fond, les technologies qui nous entouraient pouvaient aussi nous surveiller. Et ce qui, dans l'ensemble, est assez peu représenté. Quand vous regardez le cinéma par rapport à la technologie, l'essentiel de la menace technologique, c'est Terminator. C'est des formes hominoïdes qui prennent le pouvoir à différents égards. Le seul qui a vu que c'était pas ça, c'est Kubrick. Dans 2001, l'œil de...
Ces dernières années, ça a rattrapé sur les imaginaires.
L'ordinateur de Kubrick, c'est juste un œil. Et je trouve ça extraordinaire. Ça, c'était la première chose. Puis la deuxième chose, en fait, ça a été la lecture d'un travail absolument remarquable d'une femme qui est psychologue et qui a créé un département au MIT pour suivre les effets de la technologie sur les gens. Et la chose qui m'a beaucoup frappé dans cette affaire, c'est qu'elle raconte que la technologie, que ce soit les personnes âgées ou les adolescents, isolent les gens. Et ça m'a énormément frappé, parce que je me suis dit, c'est marrant quand même, la révolution industrielle, finalement, ça a été un moment où on a rassemblé les gens, on a inventé la solidarité, la représentation syndicale, la représentation parlementaire, et aujourd'hui, la technologie fait l'inverse. Et je suis parti de ça, et là, mon cheminement est allé de surprise en surprise, parce que ce que j'ai découvert, c'est que, en fait, l'économie de la tech, c'est-à-dire de l'ensemble de ce que l'électronique produit depuis 50 ans, on a maintenant un demi-siècle de recul, donc ça commence à compter, n'a plus rien à voir du tout, à aucun égard avec ce qu'était l'économie de la révolution industrielle, d'une part, et que d'autre part, ce que cette économie produit impacte de la même façon toutes les échelles des sociétés, les individus, les entreprises, les villes, les régions, les pays, et quel que soit leur niveau de développement.
La granularité, c'est ça.
La granularité.
Mais ça, c'est un point commun entre ces deux révolutions, vous le dites. Alors, effectivement, ces travaux dont vous parlez sur ces travaux du MIT, notamment en psychologie, sur l'isolement, c'est des travaux qui sont repris par Bruno Patino dans son dernier livre, La civilisation du poisson rouge, qui sont aussi cités par Tristan Harris, un ancien de Facebook, qui entre-temps a viré sa cutie. Là, ce qui me paraît intéressant dans ce livre, c'est que c'est une enquête aussi économique sur notamment, c'est le lien entre la manière dont cette révolution bouleverse économiquement notre monde et ses enjeux politiques. Alors vous dites que c'est la stratégie du winner takes it all, c'est-à-dire que les leaders deviennent des leaders. C'est pas la stratégie, pardon. Ce sont les effets.
C'est littéralement une loi de la physique de la tech. La vraie différence entre l'économie de la révolution industrielle et l'économie de la révolution numérique, et on a maintenant 50 ans de recul pour appuyer cette affirmation, c'est que l'économie de la révolution industrielle, vous produisez bien sûr des gagnants et des grands, et puis des gens qui suivaient peu à peu, et puis des gens moyens, etc., etc. Et politiquement, ça a produit dans toutes nos sociétés occidentales le cœur de nos sociétés, qui est la classe moyenne, des revenus moyens, des éducations moyennes, des villes moyennes, etc., etc. L'économie de la révolution numérique, c'est extrêmement simple, ça produit des gagnants ou des perdants, rien d'autre. Il n'y a plus rien de moyen. Les villes moyennes déclinent, les études moyennes ne mènent nulle part, les jobs moyens disparaissent, les pays moyens deviennent pauvres.
Les pays pauvres ont moins de chances et sortent moins rapidement de la pauvreté qu'auparavant.
C'est pas moins de chances, c'est que quand vous regardez 30 ans d'économie, de macroéconomie de la tech, l'effet, et c'est un chapitre pour moi l'un des plus importants c'est que l'effet de la révolution numérique, c'est que en 30 ans, les chances d'un pays pauvre de devenir un pays moyen ont été réduites de moitié. Les chances d'un pays moyen de devenir un pays riche ont été réduites de moitié. Et les chances d'un pays moyen de redevenir un pays pauvre ont doublé. Et ceci est entièrement dû à l'économie de la tech. Pourquoi ? De façon très simple, parce que la diffusion des technologies depuis les pays les plus avancés vers les pays les plus pauvres, c'est deux choses. C'est d'abord, il faut que les technologies arrivent. Et ensuite, une fois qu'elles sont arrivées, il faut qu'elles se diffusent. On a gagné beaucoup en vitesse de transmission. À l'époque de la révolution industrielle, il fallait un siècle pour qu'un truc inventé en Angleterre arrive en Inde. Aujourd'hui, il faut 10 ans.
Des bateaux à vapeur, où il y a quasiment 100 ans.
Le délai de transfert de la technologie des bateaux à vapeur depuis l'Europe jusqu'à l'Asie, c'est entre 70 et 140 ans. Le délai de transfert des technologies comme l'ordinateur individuel ou Internet, c'est entre 7 et 10 ans. Vous dites formidable.
Mais
ça va quand même. Du coup, l'obstacle principal au rattrapage va tomber. Yes, pas de chance. Les technologies de la révolution numérique sont des technologies cumulatives. Elles ne sont efficaces qu'à deux conditions. La première, c'est que vous les intégrez complètement, vous réorganisez en fonctionnel. Et la seconde, c'est que vous les répandez partout. Et c'est ceci qui ne se produit pas. Autrement dit, aujourd'hui, lorsqu'un pays a fini sa vague d'investissement, par exemple dans l'informatique ou les réseaux de télécom, il est moins bien équipé en informatique ou en réseau de télécom qu'il y a 100 ans, il ne l'était en bateau à vapeur. Et cette différence-là fait que, depuis le début des années 2000, la productivité, c'est-à-dire la capacité des pays à s'enrichir, des pays en voie de développement, y compris des pays émergents, recule par rapport aux économies les plus avancées.
Et vous dites aussi que dans ces pays où la tech a fait sa révolution, la part du travail dans le PIB diminue et va avoir tendance à diminuer.
Elle ne va pas avoir tendance à diminuer, elle diminue dans le monde entier. Et ça, c'est l'université. Une des choses extraordinaires de l'économie de la tech, c'est son universalité. Je vous le disais en commençant, mais j'y reviens, ça marche partout, de la même façon, à toutes les échelles, et quel que soit le niveau de développement. La part des salaires dans le PNB des pays baisse, dans nos pays, comme dans les pays émergents, comme dans les pays en voie de développement, et dans nos pays, aujourd'hui, elle est à son niveau le plus bas depuis 50 ans. Et ceci est un résultat mécanique, là encore, de l'efficacité extraordinaire de la tech, qui divise le monde en deux. Vous avez les entreprises ou les économies qui utilisent efficacement la technologie, ils ont des gains de performance formidables. Ils peuvent augmenter les salaires, mais les gains de performance sont tellement grands que la richesse croît plus vite que les salaires, d'un côté. Et puis, les autres, tous les autres, il n'y a plus de moyens, tous les autres, eh ben, n'ont plus les moyens parce que eux ne sont pas efficaces, parce qu'ils n'utilisent pas bien la tech, ou parce qu'ils n'en ont pas assez. Et du coup, ils n'ont pas les capacités d'augmenter les salaires. Et donc, qu'il s'agisse d'entreprises ou de pays, la part des salaires dans la richesse créée diminue.
Et alors, vous le dites, ça a des conséquences claires sur notre rapport aux politiques et notamment sur la démocratie. Alors, effectivement, vous rappelez ce que tout le monde a vu, c'est-à-dire que la tech n'est pas un projet politique. On a tous eu les enthousiasmes du rôle joué par la tech dans les révolutions arabes, mais vous allez bien plus loin que ça. Vous dites qu'en réalité, le socle économique de la démocratie, du contrat démocratique, est complètement mis à mal par cette révolution.
C'est ça le cœur du sujet, c'est que nos pays, nos démocraties sont fondées sur un pacte économique implicite, mais auquel on n'a à peu près jamais dérogé. D'ailleurs, quand on l'a fait, ça a mal tourné. C'est-à-dire que la richesse créée était distribuée, pas de façon égale, mais elle était distribuée. Premier critère. Et second critère, vous pouviez espérer mieux pour vous au fil de votre vie et pour vos enfants. Dans une économie dont la dynamique par nature est inégalitaire comme la tech, ces deux clauses n'existent plus. La création de richesse est concentrée et elle s'accumule chez ceux auxquels elle bénéficie. Alors, vous constatez ça de façon très simple, c'est que les inégalités s'accroissent et que par ailleurs, et c'est une transformation radicale pour nos pays, c'est que depuis 2005, les deux tiers des salariés, dans les 25 pays les plus riches du monde, pour les deux tiers des salariés, les revenus du travail n'augmentent plus. Ceci n'est jamais arrivé. La dernière fois que c'est arrivé dans nos pays, c'était il y a 80 ans. Dans ces conditions-là, le pacte économique, alors le Wall Street Journal...
Alors en quoi est-ce que ce serait le fait précisément d'être
très socialiste, un jour, faisait une enquête là-dessus, il disait, les citoyens de nos pays peuvent quand même se poser la question de savoir s'ils ne sont pas des pigeons.
Oui, mais en quoi est-ce que c'est le fait précisément de la révolution de la tech? C'est là où vous êtes, où il y a d'autres facteurs qui entrent en compte?
Il n'y a pas fondamentalement. Alors, ce qui est impressionnant, c'est quand vous regardez effectivement la dynamique économique qu'il y a derrière, vous trouvez la tech et presque exclusivement la tech. Vous avez un corpus absolument énorme d'études à ce sujet. C'est marrant, c'est exactement comme le changement climatique. On a des milliers d'études toute convergente qui explique le changement climatique et nos dirigeants ont encore du mal à y croire dans bien des pays. Ou en tout cas prendre les mesures appropriées. Là, c'est exactement pareil. Vous avez un gigantesque corpus d'études qui vous montre que la dynamique des inégalités, la dynamique du plafonnement des salaires, la dynamique du creusement d'écart d'efficacité, donc de modernisation entre les pays en voie de développement et les pays modernes, est entièrement, je veux dire, au-dessus de 80% lié à la tech. Vous avez des études d'université, des études de banque, des études d'organisation internationale du travail, du FMI, de la Banque Centrale Européenne, des banques fédérales américaines. Le corpus est écrasant, absolument écrasant, et c'est la tech partout. Alors vous avez quelques facteurs qui jouent, par exemple dans nos pays, la concurrence des pays à bas coût joue, mais marginalement.
Qui jouera plus longtemps d'ailleurs, et vous le dites dans ce livre. Autre conséquence pour vous, par ailleurs, l'efficacité et la rapidité de l'imprégnation de cette révolution technologique rend finalement la lenteur du temps politique insupportable.
Ah, vous avez complètement raison. Pour moi, c'est le sujet, alors cette fois-ci de vie politique, alors le sujet de fondement politique, c'est que le pacte économique est rompu. Le sujet de vie politique, il est que face à cette logique des vainqueurs, l'urgence pour chacun de nous, c'est d'en faire partie. Et donc, ce que nous
attendons... La Chine devient presque un étalon de...
Absolument. Mais de l'avis même de certains experts américains, c'est le cas. Donc, ce que nous attendons de l'État aujourd'hui, c'est pas des positions démocratiques ou n'importe quoi, c'est de l'efficacité. C'est la seule chose qui compte. Il y a une extraordinaire étude, c'est probablement l'étude la plus étonnante de ce bouquin, c'est une étude de la Banque mondiale qui, dans 100 pays, donc vous voyez la diversité, qui demande aux citoyens qu'est-ce qui compte le plus dans leur appréciation de l'État. Et à la stupéfaction de la Banque mondiale, les gens répondent que c'est l'efficacité de l'État qui compte et pas la démocratie. Ils ont été tellement étonnés par le résultat qu'ils ont demandé ils ont séparé les pays qui avaient répondu en deux groupes, ceux pour qui la démocratie primait et qui étaient seulement ceux où les gens étaient satisfaits de l'efficacité de l'État. Dans tous les autres pays, dans tous les pays et qui sont l'écrasante majorité, où les citoyens pensent que l'État fait pas bien son boulot, les citoyens considèrent non seulement que la démocratie est secondaire, mais qu'elle est une entrave au développement de l'efficacité. Et donc aujourd'hui, et on le voit dans nos pays, l'attente fondamentale des citoyens, c'est plus du positionnement politique, c'est l'efficacité de l'État. Est-ce que l'État m'aide et aide mes enfants à faire partie des vainqueurs? C'est la seule question qui compte.
Et pour conclure, vous concluez d'ailleurs avec une coda plus qu'avec une conclusion. Vous concluez en parlant de l'impératif humain. C'est un constat relativement sévère et assez noir que vous dressez là. Quelles sont vos précanisations? C'est-à-dire quels sont les quelques leviers qui existent selon vous pour qu'on puisse, disons, dérouter une certaine partie des prédictions?
Mais il n'y a pas de... Alors, trois choses là-dessus. Premièrement, la tech, ça marche. La tech nous rend des services extraordinaires tous les jours et encore plus peut-être dans les pays en voie de développement, notamment les plus pauvres. Donc la question n'est pas que la tech est un méchant démon. La question, c'est que la tech est un outil et comme on n'a pas compris la nature de cet outil, on a du mal à le contrôler. Donc c'est nos sociétés, nos dirigeants qui doivent mettre la chose sous contrôle. Deuxièmement, il y a un certain nombre de mesures, j'en détaille plusieurs dans le livre, concernant aussi bien nos sociétés que nos économies à prendre pour que la tech redevienne un instrument de création de richesses et de liens sociaux plutôt que le contraire. Troisième chose qui a particulièrement sa place ici, c'est la place particulière que je vois à l'Europe dans ce domaine. Ça, pour moi, c'est vraiment fondamental. L'Europe est la première partie du monde où les grandes entreprises de la tech ont été mises à l'amende pour comportement concurrentiel. L'Europe est la première partie du monde où des pays, je pense notamment à l'Allemagne et l'Autriche, sont en train de réviser leurs droits de la concurrence pour tenir compte du comportement de ces boîtes. Et enfin, l'Europe est la seule partie du monde, on l'a vu au moment des révélations de Snowden, on le voit aujourd'hui, qui s'intéresse à la vie privée des gens. Et ceci, au-delà des aspects souverains, pour moi, ça a quelque chose d'essentiel qui est la toute fin du bouquin, mais qui est magnifique, c'est que le propre de l'Europe, ce qui nous fonde, ce qui nous rend différents du reste du monde, c'est notre souci de la diversité. C'est la diversité qui nous a créés depuis 25 siècles.
Merci beaucoup Philippe Delmas. Donc je rappelle le titre de ce livre, Un pouvoir implacable et doux. D'ailleurs on se demande souvent où est la douceur. La tech ou l'efficacité pour seule valeur, c'était paru aux éditions Fayard en ce début de mois d'octobre.
France Culture, il est 18h54.
France Culture, soft power, Frédéric Martel.
Dans Soft Power sur France Culture, mon invité ce soir est Justin Weiss, directeur général du Forum de Paris sur la paix. Rebonsoir, Justin Weiss. Je vous rappelle brièvement votre parcours, agrégé d'histoire, docteur en histoire. Vous avez fait une thèse sur les États-Unis. Vos spécialités, c'est notamment les néoconservateurs américains, la politique étrangère, le modèle américain, la politique étrangère de Barack Obama, d'autres livres que vous avez publiés. Vous avez également dirigé le CAPS, le Centre d'analyse de prévision et de stratégie du ministère des Affaires étrangères. Et depuis mars 2019, vous êtes à la tête du Forum de Paris sur la paix. La première édition, c'était l'an dernier, c'était le 11 novembre, précisément, en 2018, à l'occasion donc du centenaire de la Première Guerre mondiale. Comment ça s'est passé, cette édition?
C'était un départ en fanfare, parce que, évidemment, nous avions cette idée de lancer le Forum depuis un certain temps, et en fait, on s'est servi de ce moment du 11 novembre où le président de la République avait invité tous les anciens belligérants de la Première Guerre mondiale au centenaire pour faire la première édition. Le forum portant non pas sur le passé, non pas véritablement et directement sur la paix, mais plutôt sur, en gros, l'organisation du monde, l'organisation de la planète.
Ça aurait pu s'appeler le forum sur la gouvernance mondiale.
Voilà, mais là, ça n'aurait pas été très sexy, et je crois que moi-même, j'y serais pas allé. Donc, c'est le Forum de Paris sur la paix, le Paris Peace Forum en anglais. Et l'objectif, c'est bien de répondre à un constat qu'on faisait dans toutes les années précédentes, et qui a été fait également par le président de la République, qui a donné l'impulsion politique. Après, le forum s'est développé de façon indépendante, qui est que le système multilatéral ne fonctionne plus ou ne fonctionne plus comme avant, ou plus suffisamment bien, que l'ONU est souvent bloquée, que, par exemple, on en parlait à l'instant, Internet est une jungle, que, par exemple, les budgets de défense augmentent partout dans le monde, le budget de l'ONU diminue, qu'on perd la guerre contre le réchauffement climatique, qu'on perd la guerre contre les pandémies, il y aura plus de victimes des pandémies à l'avenir que dans le passé, c'est quelque chose qu'on ne sait pas généralement. Donc bref, il y a beaucoup de choses à faire au-delà des frontières, et pour cela, l'ancien multilatéralisme, c'est-à-dire celui qui reposait sur l'ONU, sur les institutions internationales, doit être évidemment défendu parce que c'est un bien précieux, mais en même temps il doit être complété, il doit être réformé et complété, il doit être complété par le travail d'autres acteurs que les seuls États, par exemple pour la santé, bien sûr il y a l'OMS qui a la légitimité de tous ses membres, la légitimité politique, mais il y a les grandes fondations, on l'a vu au moment de la reconstitution du Fonds mondial Sida, la fondation Gates et d'autres. On ne peut plus parler de santé sans avoir ces acteurs-là présents autour de la table. Sur les questions numériques, on ne peut pas le faire sans avoir les ONG qui s'occupent de ça, sans avoir les entreprises de tech. On peut évidemment faire de la régulation, mais cette régulation est souvent insuffisante pour répondre aux
défis. Mais avant de prendre ces exemples, on va y revenir. Sur le constat d'abord, on a l'impression qu'il y a deux mondes, sans doute beaucoup plus que deux, mais en tout cas deux mondes très visibles. D'une part, le monde de Donald Trump, le monde du Brexit, le monde de certains Italiens et certains Brésiliens, etc., qui sont au fond favorables à une fermeture, se débrouiller entre eux, être dans leur pays, qui est une version un peu populiste, sinon très populiste, et puis d'autre part, des personnes, des pays qui croient au multilatéralisme. Et donc ça serait la position de la France, en tout cas du président Macron, que ce Forum de Paris sur la paix veut renouer avec ce multilatéralisme-là ?
Absolument, sauf que dans ces pays-là, au Brésil, en Hongrie, aux États-Unis, évidemment, et on a énormément d'acteurs américains qui sont présents au forum, il y a des tas de gens qui estiment que, évidemment, on vit un moment politique particulier, qui est un moment souverainiste, qui est un moment populiste, sans entrer dans les débats sur le mot, et qui, en gros, se méfie des élites globalisées et du coup, en jetant en quelque sorte le bébé avec l'eau du bain, des institutions multilatérales qui s'en défient. On l'a vu, le rejet de la COP21, le rejet du pacte de Marrakech et d'autres épisodes comme ça. Simplement, le problème, c'est que ces populistes n'ont pas expliqué comment ils allaient résoudre des problèmes qui touchent les gens au quotidien, du réchauffement climatique jusque au problème, je sais pas, diffusion des virus informatiques qui font des dégâts considérables, etc.
Quels sont justement ces sujets où une approche multilatérale est obligatoire,
disons. Alors, il y a d'abord les sujets qui touchent les espaces communs, ceux qui nous appartiennent à tous.
L'espace.
Exactement, l'espace, les océans, les pôles. Le cyberespace également, l'air, le climat, la biodiversité, tout ça appartient à tout le monde et donc personne n'en est responsable. Tenez un exemple intéressant, on a tous entendu parler des constellations de satellites qui vont être lancées par Virgin, par Elon Musk, par Jeff Bezos, etc. Simplement, il y a déjà un très gros problème dans l'espace, Philippe Delmas doit connaître ça bien, qui est celui du trafic spatial. C'est-à-dire qu'on a 2500 satellites et il y a déjà des risques de collision fréquents, etc. Eux veulent chacun lancer des dizaines de milliers de satellites dans l'espace. Donc, il y a un problème. Il faut qu'il y ait de la gouvernance, c'est-à-dire il faut qu'il y ait
un gendarme
pour ça, parce que une grande partie maintenant, une énorme partie de l'économie mondiale dépend de cette de cet appui sur l'espace. Mais on pourrait prendre d'autres. Tenez, par exemple, sur le climat, il y a un sujet dont on va parler au forum, qui est la géo-ingénierie. Vous savez, qui consiste à apporter au réchauffement climatique une solution technique, par exemple, diffuser dans l'espace, disons, des microparticules pour bloquer le rayonnement solaire et donc faire baisser la température de la Terre. Mais évidemment, c'est un problème de gouvernance. Si un jour il prenait au président Trump déployer unilatéralement un tel système, ce serait évidemment des conséquences pour tout le monde et des conséquences potentiellement graves, c'est-à-dire ça serait un peu jouer aux apprentis sorciers. Et donc il faut pour ça en discuter avec les États et aussi en discuter avec les autres acteurs de la gouvernance mondiale.
France Culture, il est précisément 19h, vous êtes dans Soft Power sur France Culture en direct. Mon invité ce soir est Justin Weiss, directeur général du Forum de Paris sur la paix qui aura lieu du 11 au 13 novembre, dans 3 semaines à peu près, Justin Weiss,
oui,
à la Grande Halle de la Villette. Qui est-ce qui nous aide à penser justement ce monde qui vient? Est-ce que vous avez des auteurs, avant de venir dans les détails de ce que vous organisez, sur les idées et l'approche un peu plus idéologique de votre forum, qui est aussi pour une part la pensée de la diplomatie française et d'une certaine manière la pensée du président de la République? Qu'est-ce qui nous aide à penser ce monde-là par rapport à des pensées qui sont peut-être moins celles que vous voulez défendre?
Il y en a plusieurs. Évidemment, John Haye, le père du concept de soft power, a été un de ceux qui a pensé cette politique globale. Stuart Patrick, également aux États-Unis, a écrit des choses très intéressantes justement sur ces coalitions multi-acteurs qui souvent suppléent au manque du multilatéralisme. Mais il y en a un qui m'a particulièrement inspiré, c'est Amitav Acharya, qui est un spécialiste d'origine indienne qui travaille à American University et qui a mis en avant notamment, parmi d'autres écrits, ce concept de multiplex. C'est-à-dire qu'on habite un monde qui est un multiplex, c'est-à-dire où les gens suivent plusieurs narratif, plusieurs histoires à la fois. Certains sont dans la géopolitique, on en parlait pendant le journal de 18h, le nord-est syrien, la Turquie, les Kurdes, la Russie, les États-Unis, etc. D'autres sont justement dans cet univers coopératif où on essaye de résoudre des problèmes posés à toute l'humanité. D'autres sont dans des problématiques de développement. Et au fond, le monde s'est diversifié. C'est pour ça qu'au Forum de Paris, on intègre y compris dans les instances dirigeantes du forum, c'est une association en fait, c'est une association de 1901, donc dans l'Assemblée Générale, on a plusieurs membres du Sud, des Mexicains, des Indiens, des Africains, pour prendre en compte cette complexité et ces diversités de points de vue sur ce que doivent être les règles et les moyens, disons, de gouvernance du monde actuel.
Au fond, ce serait une initiative non pas multilatérale, mais multi-acteur. Ça vous plaît cette position?
Oui, il y a tout un jargon terrible qu'on est obligé d'employer dans ces cas-là. Mais en gros, ça veut dire... Souvenez-vous de la COP21. La COP21, dans son cœur, reste westphalienne, c'est-à-dire qu'elle reste centrée autour des États, mais elle n'aurait pas réussi, et ça je l'avais vu de près en décembre de 2015, sans l'association qu'on avait faite de tous les autres acteurs, les ONG, les entreprises, et sans avoir créé un consensus beaucoup plus large que celui qui s'est créé autour des seuls États. Et d'ailleurs, c'est probablement autour de la technologie, de la finance notamment, qu'on parviendra à faire un peu bouger les choses sur le climat après le signal donné par la COP21.
Joris Fez.
Mais avant de rentrer justement dans les thèmes que vous allez aborder pour cette deuxième édition, vous parliez de la COP21 qui a, semble-t-il, pour, disons, tout le champ de la diplomatie, semble avoir été un moment assez ces pivots. On recevait Michel Duclos cet été sur France Culture, qui est aussi au CAPS, que vous avez dirigé assez longtemps. Est-ce que c'est aussi un aveu, peut-être pas d'échec, mais en tout cas que la diplomatie telle qu'on l'a connue jusqu'à la COP21 a vécu, et d'où la nécessité d'existence de forums comme celui-ci?
Oui, je pense que c'est la configuration du système international, la répartition des forces qui dicte les modes de diplomatie. Et Michel Duclos avait notamment écrit des lignes très très éclairantes sur
notamment sur la crise syrienne.
Oui, mais aussi sur l'exception qu'avaient représenté les années 90 et 2000, où l'Occident, pour aller vite, était en position de surplomb en quelque sorte, et donc le travail du diplomate en était changé. Alors que maintenant, évidemment, les choses se sont rééquilibrées. On le voit au Moyen-Orient, et donc le travail du diplomate est différent. Mais il est aussi différent parce qu'on se trouve face à des défis. En gros, on a tout un tas de problèmes globaux. Si on prend le point de vue de Sirius, tout un tas de problèmes globaux, et quand on arrive sur la planète Terre, on voit qu'il y a 194 unités différentes qu'il faut mettre d'accord. Et puis en plus, si on regarde un petit peu plus loin, on voit qu'au-delà des États, il y a aussi plein d'autres acteurs. Et donc, il faut inventer des formes diplomatiques nouvelles pour ça. Et donc, c'est ce qu'on fait au Forum de Paris sur la paix. C'est nouveau. Alors, il y a eu des tentatives dans ce sens-là, d'autres grandes rencontres du côté de Davos, mais c'est excessivement centré autour des questions macroéconomiques, autour des grandes conférences sécurité type Munich, par exemple, ou le Shangri-La Dialogue ou d'autres. Là, nous, on s'intéresse aux politiques publiques mondiales, à ce que les ONG, les entreprises, tous les autres acteurs peuvent faire avec les États pour répondre aux défis qui touchent les citoyens vraiment dans leur vie quotidienne. Hein. Il ne s'agit pas de grandes...
Alors, comment ça va marcher concrètement? Il y a à la fois un volet, donc pendant 3 jours, 11, 12, 13 novembre prochain à Paris, cette initiative multi-acteurs. Et puis, par ailleurs, vous avez des projets. Comment vous articulez les différentes dimensions de ce Forum de Paris sur la paix?
En fait, le Forum est un assemblage assez curieux, assez innovant, j'espère, de trois choses. D'abord, c'est un sommet. On aura plus d'une trentaine de chefs d'État. On aura... le patron de l'ONU, Antonio Guterres, on aura des ministres des Affaires étrangères et beaucoup d'autres, les représentants les chefs des grandes institutions multilatérales, et puis plein d'autres, des patrons d'ONG, des citoyens simples, des PDG, etc. Et en tout, à peu près 6000 personnes. Donc, c'est d'abord un rassemblement. C'est aussi... un lieu d'incubation de projets. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que ça n'est pas une conférence, c'est-à-dire on ne va pas essentiellement y parler. Ce qu'on va faire, c'est que au printemps, on lance, et on l'avait fait en 2018, on l'a fait à nouveau cette année, un appel à projets entre mars et mai qui a rassemblé à chaque fois à peu près 800 candidatures. Le nombre nous a surpris, je dis pas dépassé, mais presque dépassé, venu du monde entier, ça c'est la magie des réseaux sociaux, et venu de tas d'acteurs différents, des ONG évidemment, mais aussi des organisations internationales, des entreprises, des gouvernements locaux, comme on dit en anglais.
Alors là, vous en sélectionnez un certain nombre.
Exactement. Sur ces 800, on en sélectionne à peu près 120 qui seront présentées, 120 solutions en quelque sorte, qui seront présentées au forum et qui viennent parce qu'elles savent qu'elles peuvent trouver une plateforme, connexions, de la visibilité, du débat sur les solutions qu'elles mettent en œuvre. Et ceux qui étaient là l'an dernier ont trouvé que l'investissement, en quelque sorte, était tout à fait rentable. Et ces solutions-là se déploient dans des catégories, dans des cases qu'on a déterminées.
Vous allez prendre un certain nombre d'entre eux, une dizaine à peu près, et vraiment les aider beaucoup plus fortement. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples, par exemple, de projets qui vous tiennent à cœur?
Oui, par exemple, dans le domaine de la biodiversité, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, a développé cette idée vraiment intéressante qui s'appelle la part du lion. La part du lion, c'est un programme qui dit que pour lever les financements nécessaires pour la protection, notamment des espèces en danger, des espèces les plus emblématiques, on va créer un fonds qui repose sur le droit à l'image des animaux. C'est-à-dire que chaque fois que les entreprises font de la publicité ou utilisent d'une façon ou d'une autre les images de vie sauvage, de lions, de rhinocéros, etc., on leur propose, et évidemment il y a une pression assez forte, de payer le droit à l'image de ces animaux dans un fonds qui permet de financer ça. Voilà, c'est un truc petit mais qui est utile pour ça. Un autre exemple très très différent, c'est l'Alliance 8.7. L'Alliance 8.7, c'est, vous savez, dans les objectifs du développement durable, c'est 17 objectifs que l'ONU s'est donné pour 2030, d'atteindre en 2030. Donc il y a l'objectif 8 et il y a des sous-objectifs, et l'objectif 8.7, c'est d'éliminer le travail des enfants et l'esclavage. Eh bien, il y a une alliance qui a pris le nom de cet objectif-là, l'alliance 8.7, où sont actifs des États, chez nous c'est le ministère du Travail, c'est Muriel Pénicaud qui s'est mouillée là-dedans, des entreprises et d'autres, pour mener des actions concrètes, notamment pour ce qui concerne les entreprises, la vérification de l'ensemble de leur chaîne de production, de l'ensemble de leur chaîne de valeur, pour vérifier qu'il n'y avait pas de d'emploi de travail des enfants, ou par exemple pour les constructeurs de téléphones portables dans les mines de cobalt ou de coltan en Afrique. Et donc ça permet d'avoir une pression normative sur ces acteurs-là et de faire avancer les choses.
Parlons de numérique, puisqu'on est dans Soft Power, cette émission qui s'occupe notamment et pas seulement de ces questions. Lors du Forum de Paris sur la paix qui aura lieu du 11 au 13 novembre et que vous dirigez, Justin Weiss, quels sont les thèmes que vous avez retenus? Vous pouvez pas traiter tout, c'est très complexe le numérique, mais il y a 3-4 grands axes que vous voulez, je crois, mettre en avant.
Oui, alors le premier, c'est une des plus belles réussites du Forum l'an dernier, c'est la cybersécurité. Parce que là, on a un problème de gouvernance qui est que les États sont tellement divisés sur la question, Russie, Chine, mais aussi Brésil, Israël, Inde et beaucoup d'autres, que l'on n'arrive pas à s'entendre à l'ONU. Et il y a eu ce qu'on appelle un groupe d'experts gouvernementaux à l'ONU qui a travaillé entre 2004 et 2017, qui a obtenu quelques résultats, notamment l'applicabilité du droit international au domaine numérique, mais au fond qui s'est écroulé en 2017 sans parvenir à un résultat. Et donc un certain nombre d'acteurs du domaine, des entreprises comme Siemens ou Microsoft ou d'autres, ont pris les choses en main et ont, dans le cadre du forum l'an dernier, négocié un texte qu'on a sorti l'an dernier, qui a été adopté le 12 novembre 2018, qui s'appelle l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace. Ça, c'est un bon exemple de ce qu'on fait au Forum, parce qu'il est maintenant signé par 70 gouvernements de par le monde, de Singapour à tous les États européens et beaucoup d'autres, mais aussi par plus de 500 entreprises et groupes de la société civile. Et l'intérêt de ce texte, c'est qu'il donne un certain nombre de normes, d'obligations que s'imposent les signataires, y compris Microsoft, Google et beaucoup d'autres, et qu'il permet évidemment de mettre de la pression sur ceux qui n'ont pas signé et de parvenir comme ça à faire progresser la norme jusqu'à ce que, on espère, l'ONU puisse reprendre la balle au bon et qu'on ait un traité en bonne et due forme.
Au-delà de la cybersécurité, est-ce que vous allez aller vers des sujets type l'intelligence artificielle, la question aussi du racisme, de la violence sur les réseaux sociaux,
oui,
par exemple?
Oui, tout à fait. Alors, nous, en fait, on dépend beaucoup. On ne traite pas tout. Même si notre thème est la gouvernance globale, on ne traite pas de tous les sujets. Ce dont on traite, c'est les projets, les initiatives qui nous sont apportées. Et là, par exemple, sur la question de la maîtrise de l'intelligence artificielle, des principes éthiques et de la régulation de l'intelligence artificielle, on a beaucoup de projets très intéressants, notamment venus de Singapour, notamment venus des initiatives prises par l'UNESCO, d'autres par l'OCDE. Et ce qu'on va essayer de faire cette année, c'est de les faire, discuter, converger, pour voir si on peut faire émerger un certain nombre de principes sur la maîtrise des données personnelles, les algorithmes, la transparence des algorithmes, etc., qui permettent d'encadrer l'intelligence artificielle. Autre exemple, en effet, et c'est un peu le troisième pilier sur lequel on travaille dans le numérique, c'est maîtrise ou la régulation des contenus en ligne, que ce soit pour éviter la radicalisation, les discours de haine, ou pour minimiser l'impact sur la vie politique. Par exemple, la Digital Democracy Charter, c'est une initiative d'Omidyar, de Luminate, qui veut diffuser dans la régulation des pays concernés des pratiques comme, par exemple, la transparence des publicités politiques. Ceux qui font des publicités politiques doivent déclarer d'où viennent leurs ressources quand ils le font en ligne, notamment.
Alors, le Forum de Paris sur la paix aura lieu du 11 au 13 novembre 2019. Justin Weiss, vous en êtes le directeur général de ce Forum de Paris. Vous annoncez, même si on n'a pas les noms exactement, justement une trentaine de chefs d'État qui seront présents, le secrétaire général des Nations Unies, peut-être le Russe, peut-être la Turquie, peut-être la Chine seront présents. Évidemment, la critique qui vous est faite assez, de manière assez récurrente, c'est qu'on invite autour de la table des acteurs qui, en termes de démocratie ou de liberté de la presse, ne sont pas forcément, liberté d'association, liberté de conscience, ne sont pas forcément nos amis, enfin, en tant que Français que nous sommes, soucieux de cette démocratie, de la liberté d'expression.
Absolument. Alors, c'est une des questions que l'association qui porte le Forum de Paris sur la paix, qui donc est aux membres qui est aux mains de ses membres fondateurs, s'est posée. Et le parti pris, c'est d'assurer l'universalité de présence au Forum. On ne peut pas discuter de changement climatique, de biodiversité, sans avoir le plus grand pays du monde, la Russie, présent.
On ne peut pas faire ça entre libéraux autour d'une tasse de café.
Exactement. Ce serait bien formidable de travailler qu'avec le Canada et l'Allemagne, mais évidemment, on ne serait pas universel et il y a des tas de choses qu'on ne peut pas résoudre. On ne peut pas parler, par exemple, on disait tout à l'heure, de politique spatiale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on gère l'espace, à qui doivent appartenir les corps célestes, qui peut les exploiter, etc. Toutes ces questions-là, on ne peut pas en discuter sans les puissances spatiales qui incluent la Russie, la Chine et quelques autres. Et donc, ce qu'on privilégie, c'est en effet l'universalité de la présence, mais il n'empêche que l'on est fidèle, disons, au principe des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Par exemple, c'est dans le cadre du Forum de Paris l'an dernier qu'a été avancée l'initiative Information et démocratie de Reporters sans frontières, qui avait rassemblé 12 chefs d'État et beaucoup d'acteurs, y compris d'acteurs du numérique d'ailleurs, pour le droit à une information de qualité et la lutte contre les fake news.
Comment est-ce que, justement, vous pouvez expliquer tous ces gens-là, il y a cette espèce de double côté, vous l'avez dit, assez innovant, sommet et puis petit débat, petite réunion autour des projets. Comment est-ce que la structure garantit que tous ces chefs d'État, qui se réunissent quand même plusieurs fois dans l'année et ont un calendrier extrêmement serré, se disent plus de choses et sortent des propos convenus qu'ils peuvent avoir, notamment à l'ONU, à l'aune de ce type d'événement-là? Comment est-ce que vous arrivez à le faire, ça, concrètement?
Alors, comment est-ce qu'on essaye de le faire? Je dis pas qu'on y réussit toujours, mais c'est d'abord en ayant des formats qui ne sont jamais ce qu'on appelle des keynote speech, ou c'est-à-dire qu'on ne donne pas de tribune à un seul chef d'État pour un monologue, à part pendant la cérémonie d'ouverture où là il y a un ou deux chefs d'État qui peut.
Ce sera qui cette année?
Mais sinon, on ne peut pas encore le révéler. Seule chose que je peux révéler, c'est que le président Macron sera là, mais les autres, ce sera annoncé bientôt. Non, l'idée c'est d'avoir d'une part toujours du débat, c'est-à-dire que personne ne parle sans être questionné, soit par un modérateur, soit par le public qui est là. Et ensuite, on essaye autant qu'il est possible de mettre en contact ces chefs d'État avec les porteurs de projets, donc les 120 projets qu'on a retenus et qui sont présents. Donc ça a un côté, je dirais, presque foire de Paris, on pourrait dire.
On a même dit, par ailleurs, incubateur de start-up. Il y a eu un espèce de double truc entre forum de Davos, moins économique, et incubateur de start-up.
Oui, alors pour le grand public, pas de start-up, mais de projets, c'est-à-dire de projets. Regardez, par exemple, il y a un projet que j'aime bien, qui est un projet suédois, d'une ONG suédoise, qui a inventé une app qui permet de donner une feuille d'identité, en quelque sorte une fiche d'identité aux arbres dès qu'ils sont coupés. Et donc ça permet à n'importe quel bûcheron qui a un smartphone de prendre une photo de l'arbre dès qu'il est au sol. Et après c'est envoyé par un système qu'ils ont développé à un serveur sécurisé qui permet, et donc chaque arbre a une fiche d'identité unique, ce qui permet de réduire le trafic de bois exotique, puisqu'ils travaillent avec le Cameroun pour l'instant, qui permet d'être sûr que ce bois vient de forêts correctement gérées d'un point de vue environnemental. Ça permet de suivre le bois depuis le Cameroun jusqu'à Ikea, en gros. Et autour de ça, ils développent une norme et se rattachent aux normes existantes. Bon, ils viennent au forum parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir parler à d'autres États producteurs, d'autres États africains, d'autres États latino-américains et du sud-est asiatique, qui vont pouvoir parler à la Banque mondiale, à l'Agence européenne de développement et beaucoup d'autres, et qui vont pouvoir donc avancer dans leur projet. C'est ça l'incubation qu'on propose.
Un dernier mot sur ce forum qui a lieu à Paris. Et Paris, c'est une ville, au fond, qui est adaptée à ce type de format multilatéral, même s'il est également multi-acteur.
Oui, c'est-à-dire que Paris, c'est une ville multilatérale qui s'ignore, en fait. On ne le sait pas souvent, mais il y a plus de 50 organisations internationales qui ont leur siège à Paris.
On connaît l'UNESCO.
On connaît l'UNESCO, on connaît l'Organisation nationale de la francophonie, on connaît l'OCDE qui est très importante, qui a un travail notamment en termes de gouvernance très 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 poussé. On connaît la Chambre de commerce internationale et ses tribunaux d'arbitrage qui sont ici à Paris. On connaît l'Agence internationale de l'énergie, le Comité international de la vigne et du vin. Ça peut faire sourire, mais c'est très important en réalité pour tout un tas de
surtout au moment où on veut nous taxer notre vin aux États-Unis notamment.
Et donc Paris en effet est adapté à cela. D'abord parce que c'est la ville de la COP21 et d'un certain nombre d'initiatives de ce type-là, mais aussi en effet parce que c'est une ville multilatérale et qu'on a une base de départ qui permet de réunir chez nous le monde entier, et l'attraction, c'est ça le soft power.
France Culture, soft power. Frédéric Martel.
France Culture, 19h19, je reçois ce soir Justin Weiss, directeur général du Forum de Paris sur la paix. Comme je l'ai dit en début d'émission, vous êtes aussi chercheur, agrégé d'histoire, docteur en histoire. Vous avez beaucoup travaillé sur les néoconservateurs américains, sur l'administration Obama, sur le modèle diplomatique américain. J'aimerais terminer cette émission en vous parlant et en échangeant avec vous autour de deux livres qui viennent de paraître. Étrangement d'ailleurs, ils sont parus au même moment. L'un est écrit par Susan Rice, il s'appelle Tough Love. C'est chez Simon & Schuster, et le second s'appelle The Education of an Idealist, et c'est signé Samantha Power. Les deux femmes, vous les avez dû les croiser peut-être. Samantha Power notamment était un long moment à Harvard, à la Kennedy School si je me souviens bien. Les deux femmes ont eu des rôles très importants. S'agissant de Susan Rice, elle a été ambassadrice des États-Unis à l'ONU en 2009 à 2013, puis la conseillère de sécurité nationale du président Obama jusqu'en 2017. Quant à Samantha Power, journaliste à l'origine, spécialiste de la guerre en Yougoslavie, elle avait fait un livre très remarqué sur le génocide A Problem from Hell. Au fond, c'était une femme qui critiquait la politique diplomatique américaine qui avait abandonné, notamment en Yougoslavie, mais aussi en Afrique, et spécialement au Rwanda, les individus, et que la diplomatie américaine n'avait pas aidé. Elle a été ensuite professeure à Harvard et elle est devenue l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, là encore du président Obama. Ces deux livres, c'est évidemment des personnes de l'intérieur qui racontent à la fois leur idéalisme, et c'est le titre du livre de Samantha Power, l'éducation d'une idéaliste, mais aussi les difficultés qu'elles ont rencontrées. Je propose tout d'abord d'écouter Susan Rice à la suite de l'attentat de Benghazi, donc le 11 septembre 2012, contre l'ambassade américaine en Libye. Susan Rice et porte-parole de l'administration auprès des médias. À l'heure de déterminer la part de responsabilité dans les failles de sécurité de l'ambassade, Susan Rice a donné un certain nombre d'informations qui sont révélées erronées ou controversées. Elle l'était pressentie à ce moment-là pour être la prochaine secrétaire d'État et ses propos ont contribué notamment à ce qu'elle ne le soit pas. Elle deviendra l'année suivante, je l'ai dit, la conseillère à la sécurité nationale. Susan Rice, que l'on écoute.
Well, remember the context, right? We'd tragically lost four Americans, including Ambassador Christopher Stevens, who was a colleague and friend of mine. For better or for worse, I agreed to be the administration representative on those five Sunday shows days after that.
Do you regret doing it?
Yeah.
Rappelons-nous du contexte, je traduis ce qu'elle vient de dire. Nous avons perdu tragiquement quatre Américains, dont l'ambassadeur Christopher Stevens, qui était un collègue, mais aussi un ami, pour le meilleur ou pour le pire. J'ai accepté de parler au nom de l'administration dans les émissions télévisées qui ont suivi. Est-ce que je le regrette? Et Susan Rice répond... Oui, c'est une interview toute récente, le 10 octobre, sur CBS. Alors sur ces deux livres, j'avais envie de vous interroger, Justin Weiss. Au fond, vous aussi, vous venez de la recherche, vous avez fait votre thèse aux États-Unis, c'est-à-dire au fond, exactement comme Samantha Power, non pas du journalisme, mais en tout cas de la vie intellectuelle. Puis après, vous avez été confronté, notamment au centre d'analyse, de prévision et stratégique du Quai d'Orsay, à la réalité. Comment est-ce que on passe d'un monde à l'autre?
Oui, alors, bon, d'abord, on a un phénomène normal qui est que deux ans après la fin de l'administration, on a les livres qui sortent. Mon dernier livre était sur Zbigniew Brzezinski et lui-même avait sorti ses mémoires deux ans à peu près après sa sortie de la Maison Blanche, exactement en même temps que le secrétaire d'État avec lequel il s'était disputé, disons, Cyrus Vance, et donc ça avait fait les choux gras de la presse à l'époque. C'est la première chose. En effet, il m'est arrivé de les voir. Susan Rice, en fait, était pendant un temps une collègue de bureau à la Brookings Institution où je travaillais, ouais. À Washington. Et en effet, ces deux livres, au fond... Alors, vous avez parlé, au moment de l'extrait qui a été diffusé, de la question de Benghazi. En fait, c'est vraiment... On n'en parlerait pas s'il n'y avait pas eu une exploitation politicienne honteuse par les républicains, de cette affaire-là, qui était très regrettable, tragique, mais sans doute inévitable, et quelque chose qui est bon. Voilà, ce qui est beaucoup plus important, ce qui me semble beaucoup plus important, et ce qui donne un peu la direction en effet de ces deux livres, et ce qui a marqué tous ceux qui ont exercé d'une façon ou d'une autre un pouvoir ou une influence au cours des années 2010, c'est la Syrie. Évidemment, c'est ce qui se passe à partir de 2011, c'est-à-dire des manifestations à cause, de diverses causes, de la sécheresse, etc. Mais fondamentalement, dans le cadre des printemps arabes, une répression féroce, sanglante, la torture des adolescents, etc. Et des manifestations pacifiques qui deviennent une guerre civile, qui devient une guerre internationale. Et donc... aussi bien Samantha Power que Susan Rice ont été confrontés à cela, et notamment pour le livre de Samantha Power, toute la question c'était de savoir s'il fallait intervenir ou pas en Syrie.
Ce qu'elle recommandait à l'époque où elle était journaliste, et elle explique au fond, d'ailleurs c'est le des deux, j'ai pas lu le livre de Susan Rice qui vient juste de sortir, mais j'ai lu celui de Samantha Power. C'est un livre très touchant parce qu'au fond on a une femme qui essaye de garder un idéal dans un monde très complexe, et où même elle, malgré le poste très important qu'elle a, elle n'est qu'un acteur, une actrice parmi beaucoup. Et on sent qu'elle est, au fond, c'est une tragédie pour elle, la Syrie, puisque elle a contribué, elle a été avec un président qui, à un moment donné, a reculé.
Absolument. Alors, en fait, on n'échappe pas à la complexité du politique. C'est-à-dire que certaines interventions étaient sans doute justifiées. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir qu'elle mentionne dans son livre deux exemples qui sont des exemples français. Qui datent tous les deux de 2013, qui sont d'une part le Mali et d'autre part la Centrafrique, hein, en janvier puis en décembre 2013, comme des interventions ayant eu des effets bénéfiques. Mais en réalité, il n'y a pas d'absolu. Fallait-il intervenir en Libye ? Les deux femmes l'ont soutenu cette intervention-là, la France également. Est-ce que la situation aurait été pire si Kadhafi non seulement avait pu perpétrer les massacres qu'il commençait à perpétrer, mais avait pu se maintenir, avait pu bloquer la révolution tunisienne, avait pu intervenir chez... Enfin voilà, il y a tout un tas de questions politiques et morales qui sont posées, mais qui en effet font pas le figure par rapport à la grande question qui est posée, qui est celle la plus complexe de la Syrie, dont on voit qu'elle continue à produire des effets, et en produira encore au Moyen-Orient pendant de longues années.
Autre lien entre ces deux femmes, et ça nous ramène à ce qu'on disait en début d'émission sur le prix Nobel d'économie cette semaine, Samantha Power, et Susan Rice aussi, c'est des gens qui ont été à l'université, notamment à la Kennedy School de Harvard pour Samantha Power, qui ensuite sont dans l'administration, reviennent dans l'université. Donc il y a une porosité aux États-Unis entre la recherche et le politique et la diplomatie qui peut-être existe moins en France, même si vous êtes un bon contre-exemple. Un contre-exemple.
Oui, c'est l'exception plutôt que la règle. Il y a davantage de rigidité, même si on a d'autres parcours comme ça qu'on a vu entre l'administration, en effet, comme on dit l'administration, enfin le service de l'État, et puis en effet la réflexion politique, et puis l'industrie. Philippe Delmas est un autre exemple ancien du centre d'analyse et de prévision de ces échanges. Donc il y a tout de même en France quelques portes ouvertes et de la porosité.
Merci infiniment Justin Weiss d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes directeur général du Forum de Paris sur la paix qui aura lieu donc avec l'ouverture, c'est Donald Trump, c'est ça?
Probablement pas, puisqu'il était à Paris l'an dernier au moment de l'ouverture du forum, mais qu'il a décliné l'invitation.
Voilà, le livre dont je parlais, Samantha Power, s'appelle The Education of an Idealist, et le livre de sa consoeur Susan Rice s'appelle Tough Love, et c'est Simone & Schuster. Merci infiniment à vous tous, merci à Philippe Delmas, Zoé Sfez, pour avoir été tout au long de cette émission avec nous. Pour aller plus loin, les références des articles et des livres dont on a parlé durant cette émission, les musiques qu'on a diffusées, et notamment Prince, et bien d'autres informations sont à retrouver sur le site de France Culture, émission Soft Power. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power sur notre site France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. Dans un instant, vous allez retrouver Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.